voici sur Fréquence Terre. À présent, nous allons parler avec Marie Touffet, notre invitée. Bonjour.
Bonjour.
Nous allons parler de deux choses. D'une part, de jouets en carton que vous fabriquez. Vous allez nous dire comment on peut les fabriquer. Et puis de la grossesse naturelle, comment mener une grossesse de manière bio et naturelle. Voilà, c'est aussi un livre que vous avez écrit. Nous allons en parler tout de suite avec Anne Guéquière de Féminin Bio qui accueille ce studio de Fréquence Terre sur ce salon de Planète Durable. Bonjour, rebonjour Anne.
Oui, rebonjour Grégory, merci. C'est vrai que les jouets... Bonjour Marie Touffet.
Bonjour Anne.
Alors vous êtes sage-femme de formation.
Oui.
Mais vous êtes aussi surtout une maman.
Hein, oui.
Puisque vous avez deux enfants.
Oui.
Et donc, on va parler tout à l'heure de votre sujet de sage-femme sur la grossesse au naturel. Mais d'abord, on va parler de votre dernier livre qui est sorti chez Erol il y a maintenant combien de temps? À peu près 6 mois, un peu plus de
6 mois.
Qui s'appelle...
Les jouets en carton à faire soi-même.
Les jouets en carton à faire soi-même pour moins de 1 euro, c'est ça?
Tout à fait.
Alors, c'est vrai que faire ces jouets en carton, c'est économique, écologique. Comment vous est venue finalement l'idée de faire ce livre?
Alors, tout d'abord, bon, je suis une personne qui est assez manuelle, qui aime bien donc de faire beaucoup de choses avec mes mains. Et c'est vrai, lorsque je suis devenue maman, j'ai eu un parcours un petit peu alternatif, c'est-à-dire que j'ai décidé d'avoir une naissance à domicile.
Vous habitiez en Nouvelle-Zélande, hein, à ce moment-là?
Oui, en Nouvelle-Zélande, à Christchurch. Et donc, à ce moment-là, j'ai en fait fait des choix qui étaient plutôt alternatifs, donc d'accoucher déjà chez moi, de mon premier enfant, et ensuite de faire partie d'une association parentale pour l'accouchement à domicile, en fait, qui m'a ouvert à une façon d'éduquer qui était déjà beaucoup plus alternative. Donc, être à l'affût des jouets qu'on proposait à nos enfants dès un plus jeune âge, et par la suite, donc, voir les jouets qui étaient... plus sain par rapport à d'autres.
Comment vous est venue l'idée du carton? Pourquoi le carton plus que, je sais pas, le bois ou le papier?
Le carton, c'est tellement accessible autour de nous, c'est gratuit, tout le monde le recycle, alors pourquoi pas le recycler nous-mêmes à la maison? Et en fait, lorsque mon fils, qui a maintenant 12 ans, à l'époque avait à peu près 3 ans, il regardait un programme à la télévision en Nouvelle-Zélande qui présentait une personne entre autres, montrait un jouet en carton tout simple, qui était en fait un carton carré, où l'on fait un trou, qui est complètement ouvert, on fait un trou à l'intérieur, on l'enfile au niveau de la taille de l'enfant, et après on attache des bandoulières, de façon à l'avoir juste en face de l'enfant et d'en faire un véhicule. Donc ça devient une voiture, après on l'accessorise, ça devient un avion. Donc elle avait montré le principe de la voiture et ça m'avait beaucoup plu, et je me suis dit, bon, tiens, on a un petit peu de carton à la maison, on commence.
Et c'est à partir de là que vous avez décliné ces idées en carton?
C'est-à-dire que c'est mon fils qui les a déclinées pour moi. C'est-à-dire qu'au début, c'était bien une maison, enfin une voiture, mais ensuite, ça a été, maman, je peux avoir un hélicoptère, après un avion. Un jour, il m'a dit, maman, est-ce que je pourrais avoir une montagne russe? Alors là, je lui ai dit, il y a des limites à ce que je peux faire pour toi.
Alors justement, comment vous est venue cette idée de livre et comment est-il présenté, en fait, ce livre?
Donc, bon, le livre, il est venu parce que de fil en aiguille, par rapport déjà à mon premier livre sur la grossesse, bon, déjà un pied dans la collection, et puis un deuxième enfant qui arrivait à l'âge du premier enfant, hein, qui avait envie de jouer un peu plus ludique et puis de faire des jouets avec une participation aussi avec le parent. Et donc, en fait, ça a été le retour en arrière et se dire, bon... Là, on peut reprendre cette idée de jouer en carton, mais en plus, on peut le faire passer aux autres. Parce que, en fait, j'ai des mamans autour de moi qui me disaient « Ah, oh, mais c'est sympa, oh, pourquoi tu ne me montres pas ?» Et puis, après, ça a été approcher les éditions Erol et leur dire « Je pense qu'on a un livre qui pourrait éduquer les parents et leur donner des idées. »
Alors, comment est-il organisé, justement, ce livre?
Alors, comment est-il organisé au niveau de la structure du livre?
Oui, vous présentez plusieurs projets. Qu'est-ce que vous présentez, par exemple, comme projet, si vous pouvez nous en citer quelques-uns?
Alors, il y a 19 projets dans le livre. Donc, on démarre avec des classiques. Bon, le moyen de locomotion, donc la voiture. On parle après de l'hélicoptère, l'avion. Ensuite, il y a aussi le monde des petits personnages. Donc, quel enfant en France n'a pas de petits Playmobil ou des Lego, pour en citer que quelques-uns. Et donc, après, c'est essayer de créer un univers pour ces petits personnages. Donc, une petite maison pour ces personnages.
C'est-à-dire
après,
dans lesquels on pourra mettre ces
personnages.
Figurines.
Tout à fait, tout à fait. Et donc après ça peut être la caserne des pompiers, après la gendarmerie, ensuite il y a le château médiéval, toujours très populaire, et puis après on passe à des projets de grandeur nature. Donc pour l'occasion d'un anniversaire par exemple, on peut créer un bateau pirate où des enfants iront jouer à l'intérieur.
Et qui peut accueillir tous les enfants.
Tout à fait. Donc, le dernier qu'on a fait pour le livre, il y avait bien une douzaine d'enfants à l'intérieur à jouer. Donc là, on parle de grands cartons, on parle de cartons, de frigidaires à l'américaine.
Alors justement, quel matériel faut-il ? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce qu'il faut ? Parce qu'on dit des jouets pour moins de 1 euro, c'est-à-dire qu'il faut très peu de matériel. Donc il faut des cartons qu'on va récupérer.
Oui. Alors, de toute façon, on peut même le faire à 0 euro. On peut prendre tout simplement un carton, des ciseaux qu'on a de toute façon à la maison pour d'autres utilités, un couteau, et rien qu'avec ça, on peut prendre un grand carton, y faire des ouvertures, des portes. On le met dans le jardin et croyez-moi qu'un enfant, il n'a pas besoin de beaucoup de décoration pour s'y amuser. Ensuite, on peut effectivement faire un jouet qui va durer dans le temps et qui va faire intervenir l'enfant dans sa créativité. Donc là, on part avec une base de carton, de cure-pipe. Les cure-pipes sont des petits fils qui sont entrelacés et qui sont recouverts souvent de petites pluches.
On achète ça où ?
Alors ça, on trouve ça dans tous les magasins de...
Droguerie ?
On en trouve ça dans certaines drogueries, mais principalement dans les magasins spécialisés dans tout ce qui est craft, décoration...
Loisirs
créatifs, tout à fait. Donc là, on en trouve facilement. Sur le net, on en trouve très facilement aussi.
D'accord, donc des cure-pipes ?
Des cure-pipes. Après, donc, un tournevis qui permet de trouver plus facilement le carton. Alors l'idée du cure-pipe, c'est en fait de pouvoir attacher le carton, parce que la colle... C'est un peu plus polluant déjà et c'est pas aussi résistant au temps. Alors que le cure-pipe, ben, pour attacher deux pans, il suffit de rapprocher les deux pans, de faire deux trous de chaque côté, d'enfiler le cure-pipe et puis de le nouer.
On fait un petit nœud.
Voilà. Après, on cache le côté des cure-pipes pour pas que ce soit dangereux pour l'enfant et il n'y a aucun souci.
D'accord.
Juste une question bête, mais où est-ce qu'on trouve tout ce carton ?
Eh bien, le carton, c'est vrai que c'est pas aussi facile.
Parce qu'on n'achète pas un frigo américain tous les jours.
Et non, tout à fait. Bonne question. Et c'est vrai qu'à l'époque de mon fils, c'est là où j'ai vu le changement. C'est que, bon, tous les magasins, il suffisait d'aller derrière leur réserve ou leur demander et puis se servir en carton, comme on faisait avant, même en France. Mm-hmm. Mais plus récemment, ce qui se passe, c'est que, en fait, lorsqu'ils reçoivent leur livraison, eh ben, ils cassent le carton pratiquement instantanément. Donc, c'est vrai que un endroit pour trouver du carton solide et toujours accessible, je dirais, c'est le magasin bio du coin. Parce qu'ils ont toujours des petits cartons de côté pour se servir de transport de l'alimentation. Et c'est vrai que ce sont des cartons qui sont vraiment solides. Moi, j'ai travaillé avec, j'en suis ravie. Maintenant, pour des constructions plus importantes...
Oui, parce que vous nous parliez de voitures, oui. D'hélicoptères...
Voilà. Alors, dans ces cas-là, je vous conseille d'aller voir des grands magasins d'électroménager. Mais vous y allez quelques jours avant la prévision de vos projets. Et vous leur demandez, vous leur expliquez, c'est pour un petit projet d'enfant, ils sont généralement très aimables, et que vous repasserez le matin au moment où ils reçoivent leur livraison, et puis ben là, ils sont très contents de vous les livrer, enfin de vous les donner, hein, il n'y a aucun souci.
D'accord.
Alors justement, dans votre livre, on parlait de la structure du livre tout à l'heure. Oui. Vous avez des enfants, Grégory ?
Non.
Pas encore.
J'ai pas cette chance. Donc, mais je suis très joueur, donc je vais bien faire des jouets en carton.
On va faire un château pour vous la prochaine fois. Oui, dans votre livre, comment vous expliquez aux gens, comment vous allez pas à pas finalement construire un projet ? Il y a des schémas, comment est-ce que c'est expliqué ?
Oui, alors on l'a fait expliqué de plusieurs façons, parce qu'on a chacun notre façon à nous d'apprendre. Donc il y a les photos. Pour les visuels, il y a les schémas pour ceux qui ont besoin de plus de précision. Ouais. Et il y a donc ensuite l'explication en texte. Donc, c'est vrai que c'est vraiment expliqué pour les néophytes, pour vraiment les gens qui sont pas à l'aise à faire des choses manuellement et qui ont besoin
c'est-à-dire
vraiment.
Qu'il faut pas être doué forcément.
Non, pas du tout. Pas du tout. Le but du jeu, vraiment, de mon livre, c'est pas de faire un très beau jouet. c'est de faire de pour que c'est une participation avec un enfant, passer du temps un mercredi après-midi pendant le week-end, un jour où il y a eu de pluie, fabriquer quelque chose ensemble. Après, on peut le faire plus ou moins fini de façon à ce qu'il dure plus dans le temps.
Plus éphémère, oui.
Voilà, ou éphémère si c'est vraiment juste pour s'amuser, mais c'est vraiment ça le but. Donc le but, c'est donner des idées, donner des clés aux gens qui ont plus de mal. Mais très vite, moi le retour de mes copines qui l'ont fait, c'est que au bout de 5 minutes, l'enfant déjà prend les rênes. Il dit oui, mais moi je voudrais plutôt ça comme ça. Alors là, je voudrais mettre ta porte ici. Donc après, ça change. Donc moi, je dirais que ce qu'il faut surtout, c'est être à l'écoute de son enfant.
Il y a une base et après on improvise.
Tout à fait.
C'est à la fois pour les parents et pour les enfants.
Mais c'est surtout pour les enfants.
Surtout pour les enfants.
Parce que après, il y a beaucoup de parents qui veulent les choses parfaitement parfaites, les choses parfaites, alors que l'enfant, c'est pas ce qu'il recherche du tout.
Alors finalement, Maria Montessori ou même Françoise Dolto, qui étaient des grandes figures de la pédagogie et de l'éducation, disaient que les enfants n'avaient pas besoin de grand-chose, effectivement, et qu'il faut laisser libre cours à leur imagination et qu'ils créent. Donc ça répond tout à fait à un besoin naturel de l'enfant et puis
bien
de
sûr.
L'adulte.
Entièrement, franchement.
Alors moi, quand j'ai découvert, quand j'ai eu ma fille il y a un peu plus de 7 ans, ma première fille, que les jouets des enfants étaient extrêmement pollués, c'est-à-dire que les poupées en plastique, les puzzles qu'on peut leur acheter, les meubles de leur chambre évidemment, mais là on s'attache plutôt aux jouets, les petits doudous tout mignons qu'ils ont dans leur lit à longueur de journée, dont on entoure le berceau, que la famille offre, etc. Ben, tout ça c'était bourré de polluants. C'est quand même dégoûtant, enfin vraiment moi je trouve, le mot est presque faible.
Complètement. Je pense vraiment que le domaine du jouet est un domaine qu'on a complètement plus ou moins évité de regarder par rapport à la santé de l'enfant. Et c'est vrai que c'est choquant quand on donne un doudou qui est fait de l'autre côté de la planète dans des conditions très déplorables, et j'en parlerai après, avec des tonnes de produits chimiques pour le rendre soi-disant plus sécurisant, c'est-à-dire que des retardateurs de flammes par exemple qui sont très toxiques en fait. Donc c'est vrai qu'on s'en rend compte de nous-mêmes lorsqu'on ouvre un jouet. La première chose qu'on fait, c'est un peu le repousser, ouais. Et on sent l'odeur, on se dit, ça sent pas très bon, donc on va l'aérer. Donc, il faut se dire, c'est que si on a le besoin de l'aérer, c'est qu'on l'aère de quelque chose. Donc, ces choses-là, bon, une grande partie va partir au début, mais elle va rester, présente dans le jouet quand même un certain temps. Elle est donnée à un nouveau-né qui n'a aucune réponse, très peu de réponse immunitaire. Et voilà, je trouve que c'est vraiment très, très embêtant. Donc, je dirais que le livre, c'est en deux parties, c'est une alternative. À cette façon
tout plastique,
industrie du jouet plastique, ou alors des fois même malheureusement on se retourne vers le bois maintenant et on se rend compte que il y a beaucoup de bois, c'est pareil, qui sont pas contrôlés et qui sont traités et qui sont pleins de formaldéhyde. Donc là c'est aussi un problème. Donc c'est vrai que à l'heure actuelle, acheter un jouet à son enfant en pleine conscience, c'est vraiment se tourner vers le bio et vers l'écologie.
Complètement. Mais alors en même temps, on peut pas avoir que des jouets en carton. Il y a aussi ce problème de peut-être de solidité, de fragilité du carton.
Eh bien, écoutez, j'aurais pu l'emmener aujourd'hui, c'est vrai.
Dommage, on n'en a pas.
C'est dommage, mais ma fille a hérité du bateau de pirate de mon fils, qui a été fait il y a quand même 7 ans. Et il est en parfait état.
Donc
c'est-à-dire que si on prend un carton solide et après, si on le peint avec une facture écologique, bien sûr, si on le peint, on lui rend encore plus de solidité. Il faut pas oublier que maintenant on fait des meubles en carton.
Donc l'obsolescence de vos jouets n'est pas programmée, contrairement finalement à l'obsolescence des objets qui aujourd'hui en électroménager ou dans les jouets sont programmés en fait pour avoir une durée de vie illimitée. Il y a eu un excellent reportage à la télévision sur ce sujet-là.
Sur Arte, oui.
Donc là on voit que vos jouets en carton sont durables, c'est merveilleux.
Bien sûr.
On va passer à l'autre sujet, Grégory ?
On va passer tout à fait à cette grossesse au naturel. C'est aussi un livre que vous avez écrit, Ma grossesse bio et naturelle, à trouver aussi aux éditions Erol.
Oui.
Alors, Marie Touffet, vous êtes sage-femme, puisque c'est votre métier.
Oui.
Vous êtes diplômée en Nouvelle-Zélande, puisque c'est là-bas que vous avez exercé une plus grande partie de votre temps. Vous êtes aussi auteur d'un programme sur Internet qui s'appelle lecoachgrossessebio.com. Je rappelle pour les auditeurs, www.lecoachgrossessebio.com. Donc, j'invite toutes les femmes enceintes à se connecter à ce programme, puisque c'est un programme qui est 100% gratuit, Quel a été votre objectif avec ce programme? Est-ce qu'il comblait finalement un certain manque de suivi au niveau obstétrique, sage-femme? Vous pouvez nous en parler un petit peu?
Alors, en deux temps, pour moi, ça a été une suite logique de mon livre. C'est-à-dire que bon, bah, le livre, c'était une information au grand public et c'était passer certains messages qui sont très importants à l'heure actuelle. Et ensuite, c'était vouloir le rendre plus interactif. Et puis, un souvenir personnellement, mon manque de contact avec les femmes enceintes aussi. Donc, c'est aussi leur passer des messages, mais leur donner l'opportunité de me renvoyer les leurs. C'est-à-dire que grâce à le coach grossesse, bon ben la femme choisit la façon dont elle veut l'utiliser. Elle peut simplement recevoir les mails par semaine, accéder au dossier et ne pas participer au forum. Ça, c'est à son choix. Mais si elle veut, si elle a des questions vraiment auxquelles elle ne peut répondre elle-même ou par l'intermédiaire des dossiers, donc elle me pose ces questions-là, ou elle peut le poser aux mamans à l'intermédiaire du forum de façon à avoir accédé à l'expérience des autres mamans.
Alors, quel genre de questions, quel genre de problématiques sont abordées sur ces forums?
Alors, une question classique, ça va être le début de grossesse, la fatigue, les nausées.
Qu'est-ce là, que vos réponses sont au naturel, justement. Quelle est votre différence par rapport à des coachings grossesse conventionnels?
Là, c'est vrai que moi, je promeux pas beaucoup la phytothérapie, l'homéopathie, les sels biochimiques aussi, et les tisanes énormément, parce que je pense qu'elles ont des vertus formidables et elles sont très agréables à prendre pour la femme enceinte. Donc,
il y a des plantes en particulier pour les tisanes?
Oui, par exemple, dans les cas de nausées, de fatigue, c'est vrai que les tisanes de menthe, par exemple, sont très rafraîchissantes et très reposantes aussi. Il y a la camomille aussi qui est très bien. Il y a des tisanes de base pour la femme enceinte que je promeux parce que je trouve qu'elle favorise un apport en niveau minéral et au niveau vitamine très intéressant. Donc c'est vrai que ça c'est un exemple, mais après il y a d'autres exemples où est-ce que je vais accoucher, par exemple, c'est une maman qui peut être dans un coin en France qui ne connaît pas très bien les différentes maternités. Donc, elle peut faire appel au forum pour être à la recherche d'une maternité qui va convenir un peu à ses envies et ses besoins.
Accoucher naturel, c'est possible?
C'est possible, mais c'est un peu le parcours du combattant en France. C'est triste. On est passé sur une surmédicalisation, une surtechnisation de la naissance, où on nous fait croire qu'on a un besoin d'être encadré au niveau médical et au niveau technicité. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a donné un message aux femmes qu'elles ne peuvent plus accoucher elles-mêmes naturellement.
Vous-même, vous avez accouché à la maison, alors c'était, oui, en Nouvelle-Zélande. Ce serait possible en France?
Oui. Alors moi, je l'ai fait pour mes deux enfants en Nouvelle-Zélande, effectivement. En France, c'est tout à fait possible. J'ai été en contact lorsque je suis rentrée avec une sage-femme au Pays Basque qui fait un travail formidable et qui couvre non seulement le Pays Basque, mais qui couvre aussi le Béarn et les Sud-Zélandes. C'est pour vous dire à quel point il y a beaucoup de mamans c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mamans qui le demandent, mais qui malheureusement, selon l'endroit où elles sont en France, n'ont pas accès à des sages-femmes qui peuvent les accompagner,
les orienter.
Alors je reviens sur le coach grossesse bio sur internet, le coachgrossessebio.com, qui est gratuit, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Toute femme enceinte peut s'inscrire en fonction de son terme de grossesse et elle sera coachée chaque semaine, c'est ça?
Oui, alors en fait, beaucoup de femmes savent très bien que maintenant il y a énormément de sites internet qui propose des accompagnements, des suivis de grossesse de mois par mois, semaine par semaine, etc. Je pense que ce coach de grossesse, il a été conçu parce qu'il y avait, un manque dans ces programmes d'apporter des informations aux mamans d'une façon déjà, d'apporter des informations pour qu'elles puissent avoir un encadrement naturel plus sain et des choix plus humains pour la naissance et d'en faire de remplir un besoin qui était présent tout simplement et c'est vrai que le fait qu'il soit accessible gratuitement, ça permet aux mamans de l'essayer de toute façon en toute
simplicité,
tout à fait. Et puis se rendre compte si ça fonctionne pour elle. Bon, ça arrive des quelques fois que ça ne fonctionne pas, mais la plupart du temps, c'est vrai que j'ai des très très bons retours.
Et alors au niveau de la santé, il y a des mamans et des bébés, est-ce qu'il y a un plus à avoir une grossesse bio au naturel?
Tout à fait. De la même façon qu'il est très important pour la planète et pour la santé en général de manger bio, je dirais que lorsqu'on est enceinte et qu'on porte un bébé, je dirais que c'est encore plus important. Parce que si on n'a pas cette démarche avant, c'est le moment idéal et c'est le moment propice. Une femme qui attend un enfant est prête à faire des changements, parce qu'elle a déjà fait un changement énorme dans sa vie. Donc c'est le moment idéal pour les sages-femmes, pour son environnement, de lui donner l'information qui est importante pour elle, pour qu'elle fasse les bons choix et qu'elle prenne des bonnes habitudes qu'elle pourra poursuivre pour sa famille et pour elle-même.
Donc c'est une grossesse bio, c'est manger bio, oui. C'est être dans un environnement sain. Qu'est-ce que c'est, oui. En quelques mots?
Relister, oui, les conseils que vous donnez effectivement, voilà. Sur le coach grossesse.
Alors, les conseils vraiment de base, c'est donc manger bio et naturel, c'est-à-dire que des fois, bon, c'est vrai que le budget pour certaines personnes ne peut pas permettre, même si je pense que c'est souvent une réorganisation de la façon de se nourrir.
Donc je crois que vous donnez des recettes de cuisine. Hein.
Oui, tout à fait, des exemples de recettes et l'importance de se nourrir naturellement et d'utiliser des produits bio, que ce soit les fruits et légumes, mais aussi également la viande, c'est très très important à l'heure actuelle. Donc ça, c'est pourquoi, c'est pour éviter toutes ces toxines qui sont présentes dans notre alimentation au quotidien, éviter de les recevoir. Ensuite, il y a l'environnement, il y a les champs électromagnétiques, il y a les ondes, il y a exemple, le téléphone portable, les ordinateurs, les antennes relais. Bon, on ne peut pas, malheureusement, à l'heure actuelle, se protéger de tout au niveau environnement parce qu'on est...
On ne peut pas s'exiler à la campagne, oui, quand on est...
Et malheureusement, nos jours, la campagne n'est pas forcément le bon plan.
Qu'on fait les pesticides, c'est ça ?
C'est ça.
Tout à fait. Mais je pense qu'on peut, on peut déjà éviter de trop recevoir. C'est-à-dire que c'est déjà mieux que rien. Et c'est déjà... Voilà.
Alors moi, j'ai noté aussi quelque chose de remarquable dans votre accompagnement et qui finalement est assez rare, c'est qu'on est souvent suivi par un gynécologue ou un obstétricien qui va vous traiter un petit peu très bien, sympathiquement parfois, mais parfois aussi comme un numéro où vous êtes un symptôme, c'est-à-dire que vous êtes enceinte, vous êtes presque une pathologie sur pattes, si je caricature. Et donc, il va vous donner simplement votre liste d'analyses, il va vous examiner et puis voilà. Donc, je crois que dans votre programme de coaching grossesse, il y a vraiment un véritable accompagnement psychologique, de soutien psychologique de la personne où là, on retrouve vraiment tout votre métier de sage-femme. La sage-femme a toujours été dans ce rôle.
Bon, en étant parfaitement honnête, je pense que idéalement, chaque maman aurait une sage-femme pour les accompagner en accompagnement global. Je ne serais pas nécessaire dans ce programme. Malheureusement, à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Il y a à peu près 30% seulement des sages-femmes libérales, des sages-femmes qui proposent l'accompagnement global en France. Donc on est loin de ce qu'on peut, des besoins des femmes. Donc c'est sûr que ce programme propose un accompagnement en plus de l'accompagnement médical. Et pour celles qui n'ont pas accès à une sage-femme, c'est vrai que ça leur propose aussi le regard d'une sage-femme. C'est vrai que l'accompagnement d'une sage-femme, c'est l'écoute. C'est surtout l'auto-responsabilisation.
Oui, c'est ça que je trouve merveilleux dans votre discours. C'est vraiment, vous dites, mais vous savez faire, nous sommes programmés pour accoucher, il en va de la survie de notre espèce. J'adore quand vous parlez de ça.
Ben, tout à fait. Je crois que c'est quand on dit, mais est-ce que je pourrais réussir à le faire? Ben, je dis, on n'en serait pas là si les femmes, il y a 200, 300 ans, même moins que ça, s'étaient posé la question.
C'est l'instinct animal.
Tout à fait, et c'est ce que je rappelle aux femmes vers la fin de la grossesse, c'est que en fait, il faut qu'elles éteignent toutes ces parties du cerveau qui les fait penser, et qu'elles rejoignent ce côté primitif du cerveau, et qu'elles se fassent confiance, et qu'elles pensent. Des fois, c'est vrai qu'on a souvent des chiens autour de soi, et c'est vrai qu'on a plus l'opportunité peut-être de voir un chien mettre à bas. Ces petits chiots, mais c'est vrai qu'ils se posent pas la question non plus. C'est très naturel et la femme en fait a toutes les capacités de le faire. Ce qu'il faut à l'heure actuelle, c'est qu'elle se sente en sécurité. Et c'est vrai que l'accompagnement ou le lieu de naissance peut vraiment faire la différence à ce niveau-là.
C'est là où le rôle de la sage-femme est important, c'est de mettre en confiance.
Tout à fait, de lui rendre sa confiance. Est-ce qu'elle
est
là?
Comme vous
elle
le dites,
est là,
si la femme a toujours accouché, toute seule avant que les sages-femmes n'existent, les femmes accouchaient quand même. Et donc comment se situer par rapport à...
Et juste pour vous rappeler, quand même, 90% des femmes sur la planète accouchent chez elles, accouchent en hors maternité.
90%.
Oui. Donc, en fait...
Et en France ?
En France, 0,01%, je crois. Enfin, moi, ce que je veux dire, c'est que en fait, on a l'impression que ça ne se fait plus. Mais si, ça se fait partout autour de nous, dans la planète, des femmes qui accompagnent d'autres femmes, des sages-femmes qui accompagnent des femmes. Mais c'est vraiment que dans nos pays industrialisés où la norme est complètement inverse, sinon pire. Donc c'est vrai que c'est un peu remettre les choses en perspective et puis rendre le pouvoir à la femme.
Alors juste un dernier point, parce que ça pourrait faire l'objet d'une émission à part entière, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi évidemment des conseils pour bien allaiter en toute sérénité, des conseils pour être belle, en forme, de manière tout à fait naturelle.
Oui, alors bon, l'allaitement c'est vraiment... C'est vraiment un sujet très très important. On pourrait effectivement reparler, mais bon, je pense que il faut absolument que les femmes s'informent au niveau de l'allaitement, qu'elles prennent le temps de lire un livre dessus l'allaitement ou de voir le site internet, par exemple, Alleche League, absolument avant de prendre une décision.
Très bien.
On rappelle peut-être, Grégory, l'URL du site.
Alors le site,
c'est www.lecoachgrossessebio.com.
www.lecoachgrossessebio.com.
Merci Marie.
Merci Marie.
Avec grand plaisir.
Et je rappelle aussi vos ouvrages, Les jouets en carton à faire soi-même et Ma grossesse bio et naturelle, tout cela aux éditions Erol. Merci d'être venu sur ce plateau de Fréquence Terre en partenariat avec Féminin Bio.